Tchekhov, il a trop exagéré. L'arpenteur Gleb Gavrilovitch Serinov arriva à la gare de Giroushki. 30 à 40 verstes le séparaient encore de la propriété où il avait été appelé pour mesurer le terrain. « Dites-moi, je vous prie, où est-ce que je pourrais trouver ici des chevaux de poste ?» demanda l'arpenteur au gendarme de la gare. « Oh, des chevaux de poste! Par ici, impossible de trouver un chien convenable dans un rayon de 100 verstes, et vous désirez des chevaux de poste? Où allez-vous donc ?»« À Dievkino, la propriété du général Khochotov. » »« Eh bien, » dit le général en bâillant, gendarme en bâillant, « voyez derrière la gare, il y en a parfois dans la cour des paysans qui prennent des voyageurs. » L'arpenteur soupira et s'enfuit derrière la gare. Là, après force recherche, conversation et hésitation, il finit par trouver un moujik, une espèce d'Hercule, morne, la face labourée par la petite vérole, en caftan déchiré, en chaussons de tille. « Quel drôle de télégat as-tu là ? » fit l'arpenteur avec une grimace en montant dans le véhicule. « Impossible de distinguer son devant de son derrière. »« Mais c'est pas difficile pourtant. Là où est la queue du cheval, c'est le devant, et là où vous êtes, c'est le derrière. » Le cheval était jeune, mais très maigre, avec les pieds écartés et les oreilles rongées. Lorsque le cocher, s'étant levé, lui frappé avec son fouet, fait d'un bout de corde, le cheval remua la tête, et ce fut tout. Lorsqu'il lui frappait une seconde fois, accompagnant le coup d'un juron, le télégat glapit et trembla comme pris d'un accès de fièvre. Au troisième coup, la télégat se remua, et au quatrième, elle partit. « Est-ce que nous allons marcher comme cela pendant toute la route ?» demanda l'arpenteur, secoué fortement et admirant l'aptitude des cochers russes à combiner une allure lente de tortue avec des secousses qui vous remuent jusqu'au fond des entrailles. « Nous arriverons, » dit le cocher d'un air compatissant. « La jument est jeune et vive. Laissez-lui seulement prendre l'essor. Après, oh, vous ne la retiendrez plus. « Et donc, maudite !» Lorsque la téléga quitta la gare, c'était le crépuscule. À droite de l'arpenteur s'étendait sans fin une plaine gelée. Elle était tellement immense que, si on eût voulu la traverser, on fût arrivé certainement à la demeure du diable. Là où elle disparaissait en se confondant avec l'horizon, s'éteignait paresseusement le couchant froid d'automne. À gauche, dans l'atmosphère de plus en plus sombre, on voyait se dresser des objets qui étaient peut-être des meules de foin, peut-être les maisons d'un village. Ce qui était devant lui, l'arpenteur ne le voyait pas à cause du dos large et lourd du cocher qui lui masquait ce côté. L'air était calme, mais glacial. « Quel endroit perdu !» pensa l'arpenteur, en abritant ses oreilles avec le col de sa pelisse. « Pas une maison, pas une âme qui vive. Si par malheur on m'attaquait et dévalisait, personne n'en saurait rien, même quand je tirerais des coups de canon. » Et le cocher n'est pas digne de confiance du tout. « Mais regardez-moi ce dos. Si cet enfant de la nature vous touche de son doigt, c'en est fait de vous. Et cette gueule de bête sauvage. »« Eh, mon ami, » demanda l'arpenteur, « comment t'appelles-tu ? » ?»«
Moi, Klim. »«
Dis-moi, Klim, ce n'est pas dangereux par ici, on ne fait pas de mauvais coups. »
« Dieu merci, non. Qui voulez-vous qu'il fasse un mauvais coup ?»
« c'est bien, si on n'a rien à craindre de pareil, tant mieux. »« En tout cas, j'ai pris avec moi 3 revolvers, » mentit l'arpenteur. « Et les revolvers, sais-tu, ça ne plaisante pas. On coucherait 10 brigands par terre avec. »« La nuit tomba, la Téléga tout à coup cria, glapit, frissonna, et comme malgré elle, elle tourna à gauche. « Mais où me mène-t-il donc ?» pensa l'arpenteur. Il allait jusqu'ici tout droit et brusquement il a pris à gauche. Si ce misérable m'entraînait dans quelque trou et... Oh, de pareilles aventures se sont produites plusieurs fois. « Dis donc, » reprit-il en s'adressant au cocher, « alors tu assures que ce n'est pas dangereux par ici ?»« C'est dommage, j'aime à me battre avec des brigands, moi. J'ai l'air maladif, faible, mais j'ai la force d'un bœuf. » Un jour, trois brigands m'ont assailli. Et que penses-tu qu'il arriva? Oh, j'ai frappé le premier si fort et si dru qu'il a, tu comprends, rendu son âme à Dieu. Et les deux autres ont été, à cause de moi, envoyés en Sibérie, aux travaux forcés. Mais où est-ce que je prends cette force? Moi-même, je ne le sais pas. J'empoigne d'une main un colosse, comme toi, par exemple, et je le jette bas. Klim regarda l'arpenteur, cligna des yeux et frappa son cheval. « Oui, ami, continua l'arpenteur, Dieu te préserve d'avoir affaire à moi. Non seulement le brigand qui m'aurait touché resterait sans bras ni jambes, mais il devrait encore répondre devant la justice. Je connais tous les juges et tous les gouverneurs. Je suis un homme qui sert le gouvernement, un homme utile, nécessaire. Je suis en route maintenant et les autorités le savent. Elles ont soin que personne ne me fasse aucun mal. Sous chaque buisson, le long de la route, les agents et les gardes champêtres sont placés. Mais attends, attends, cria tout à coup l'arpenteur de toutes ses forces. Mais où me mènes-tu donc? Ben vous voyez donc pas, c'est une forêt. Oui, c'est une forêt, en effet. « Et moi qui en ai peur, » pensa l'arpenteur. « Faut pourtant pas que je trahisse mon émotion. Il a déjà remarqué que j'avais peur. Pourquoi est-ce qu'il me regarde si souvent? Il médite sûrement quelque chose. Il se traînait à peine d'abord, maintenant il va comme un fou. Dis donc, Klim, pourquoi fais-tu marcher si vite ta jument ?» « Oh, je ne la fais pas marcher du tout, c'est elle-même qui court ainsi. Lorsqu'elle commence à courir, il est impossible de la retenir. Elle-même n'est pas contente de voir des jambes comme ça. Mais tu mens, mon ami, je vois bien que tu mens. Ah, je ne te conseille pourtant pas de marcher si vite. Allez, retiens ton cheval, retiens-le, tu m'entends. Pourquoi faire? Parce que quatre camarades me suivent. « Il faut qu'ils nous rattrapent. Ils m'ont promis de me rattraper dans cette forêt. Nous serons mieux ensemble. Ce sont tous des gars forts, robustes, chacun un pistolet. Mais qu'est-ce que tu as à me regarder tout le temps? Mais qu'est-ce que tu as à t'agiter comme si tu étais assis sur des aiguilles? Il n'y a rien à regarder sur moi, rien d'intéressant. » Si dans les revolvers, peut-être. Si tu tiens, je vais les sortir, je te les montrerai. Tiens. L'arpenteur fit mine de chercher dans ses poches. Et alors se produisit ce qu'il n'aurait jamais pu prévoir, tout poltron qu'il était. Klim dégringola tout à coup de la téléga et se sauva à quatre pattes dans la forêt. « Au secours » cria-t-il, « au secours! Prends, brigand, et mon cheval et ma téléga, ne me tue pas, au secours !» Un bruit de pas rapide qui s'éloignait, un craquement de bois sec écrasé, puis tout devint calme. L'arpenteur, qui ne s'attendait pas à cela, arrêta d'abord le cheval, puis il s'assit aussi confortablement que possible et se mit à réfléchir. Ben, il s'est enfui, il a pris peur, l'imbécile. Ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant? M'en aller tout seul, c'est impossible. ne connais pas le chemin, et puis on croirait que j'ai volé ce cheval. Oh, que faire? Klim, 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 répondit l'écho. À l'idée de passer dans la forêt sombre, toute une nuit froide, sans autre bruit que le hurlement des loups, l'écho et les piaffements de la petite jument maigre, l'arpenteur eut un frisson désagréable le long du dos. « Mon petit Klim » cria-t-il, « mon petit pigeon, où es-tu, mon petit Klim ?» L'arpenteur cria ainsi deux bonnes heures, et ce ne fut qu'après s'être enroué et résigné à l'idée de passer cette nuit dans la forêt, qu'un souffle léger de vent lui apporta un gémissement. « Oh, Klim, c'est toi, mon ami, viens, partons !»« Mais tu me tues, tuerais !»« Mais je plaisantais, mon ami !»« Dieu m'est témoin que je plaisantais !»« Je n'ai point de revolver !»« Je te mentais parce que j'avais peur !»« Allez, viens donc, partons, je gèle !» Klim, ayant compris sans doute qu'un vrai brigand aurait déjà depuis longtemps disparu avec son cheval et sa téléga, sortit de la forêt et s'avança d'un pas indécis vers le voyageur. « Imbécile, mais de quoi as-tu peur? Je plaisantais, moi. Et toi, tu as eu peur. Allez, monte, partons. »« Oh, que Dieu soit avec toi, monsieur, » murmura Klim en montant dans sa téléga. « Si j'avais su, je t'aurais pas conduit pour 100 roubles. J'ai failli mourir de peur. » Klim frappa son cheval, la téléga tressaillit. Klim frappa encore une fois et la téléga chancela. Après le quatrième coup, lorsque la téléga fut partie, l'arpenteur s'abrita les oreilles avec le col de sa pelisse et se mit à réfléchir. La route et Klim n'avaient plus rien de dangereux à ses yeux. Anton Tchekhov.